Introduction à la vie de Saint Bernard par Ratisbonne.
L'idée première, l'idée mère, pour ainsi dire, de l'histoire humaine, c'est l'idée de l'unité du genre humain. Mais cette unité n'est point un être de raison, une abstraction logique, une généralisation opérée par le travail de la pensée. C'est un être réel et véritable, une grande existence, ayant sa vie propre, individuelle, complète. Le genre humain est un dans son principe et sa nature. Il a été créé un, constitué dans l'unité, organisé en un seul corps. Il a été personnifié en Adam, qui est l'homme principe, l'homme primitif, embrassant en lui les races et les espèces, l'homme genre, engendrant toutes les générations humaines, et formant avec la totalité de ses descendants l'humanité générale ou le genre humain. Cette idée, simple mais fondamentale, inscrite sur le frontispice des livres sacrés, est comme le dogme de l'histoire. Sans elle, point de lignée vitale entre les hommes et les générations d'hommes, point de tradition vivante entre les âmes et les siècles, point de liaison nécessaire et sympathique entre les nations et les peuples. Sans elle, point de transmission, point de solidarité, point de causalité, nulle communauté d'origine, de nature, de loi, de destinée entre les individus et les sociétés. Le dogme de l'unité humaine, qui est la clé des mystères du christianisme et domine la philosophie, est donc aussi la base, le point de départ de l'histoire. Or, nous apprenons de l'Écriture que dès l'origine des choses, avant la chute de l'homme, l'unité adamique a été brisée. Il n'était pas bon que l'homme restât seul, une division fut opérée et Adam fut séparé en deux sections, en deux sexes. Le péché intervint. Un principe de corruption pénétra dans les sources des générations humaines, car, dit l'apôtre, comme le péché est entré dans le monde par un seul homme et par le péché la mort, ainsi la mort est passée dans tous les hommes par ce seul homme en qui tous ont péché. Ce principe eut pour conséquence le relâchement des liens vivants de l'unité et par suite la séparation des éléments qui la constituent amena la multiplication du genre humain par les voies de la concupiscence. Adam devint multiple, mais cette multiplicité, opérée sous l'action de la loi du péché, dut être ramenée à l'unité par la loi de grâce et les générations mortelles, conçues et enfantées dans l'iniquité, durent être rappelés par les voies de l'esprit à l'unité spirituelle et immortelle. De là de grandes phases, de lois, de voies, de mouvements contraires dans la vie de l'humanité sur terre. Mouvements centrifuges qui portent le dedans au dehors, versant, dispersant dans le monde extérieur les éléments individuels de la race d'Adam, puis mouvements centripètes refluant vers le centre, ramenant les hommes du dehors au dedans, de la chair à l'esprit, de la multiplicité à l'unité. Ces deux phases ont leur type dans toutes les sphères, dans toutes les existences de la nature, dans toutes les lois de la vie. Elles caractérisent profondément le monde ancien et le monde nouveau. Ce sont les deux tables de la loi de Dieu. L'une a été brisée, l'autre subsiste éternellement. Sous l'empire de ces deux lois s'accomplit l'histoire des individus et des peuples, l'histoire de l'homme et du monde. Dans le monde ancien, en effet, tout tendait à la multiplication des races humaines, à la diffusion, à la dispersion des peuples. Croissez et multipliez et remplissez la terre, telle est la loi qui a dominé le monde, jusqu'à l'époque où le Fils de Dieu naquit parmi les enfants des hommes. À cette époque, l'humanité était parvenue au maximum de son développement charnel, elle s'était déployée sur la surface du monde et s'était épanouie comme un cercle immense qui arrive à sa plus large extension. Alors, au centre de cette sphère vivante, au cœur même de l'humanité, au milieu des temps, parut le Christ, le Sauveur des hommes. L'avènement de Jésus-Christ, auquel aboutissaient tous les développements de la première phase de l'histoire, termine l'ère ancienne. La terre a produit son fruit, le mouvement d'extension s'arrête et le second mouvement commence, mouvement d'attraction qui, de tous les points de la circonférence, reflue vers le centre comme vers un foyer puissant qui attire les éléments épars des races humaines, les réunit, les absorbe pour les reconstituer en unité. Qu'il soit un, telle est la loi qui régit l'ère nouvelle, c'est l'ère du retour, l'ère de la rénovation, et pour employer un mot significatif, c'est l'ère de l'unification, opposée à celle de la multiplication du premier âge. Les choses anciennes sont passées, dit l'apôtre, tout a été renouvelé. La vérité de ces deux lois, fondée d'ailleurs sur la parole des livres saints, se justifie par l'histoire. La prodigieuse multiplication et la dissémination rapide des habitants de la terre est le grand fait de l'Antiquité. Toutes les données historiques le démontrent. La dispersion des peuples, la distinction des races, la diversité des langues, la divergence des cultes, des mœurs, des croyances, le morcellement des empires, les barrières étroites et l'étroit patriotisme qui s'interposaient entre les nations et les peuples, les institutions sociales, telles que la polygamie, la répudiation, la servitude des femmes, la gloire attachée à la paternité, à la fécondité, tout en un mot avait pour but de fractionner l'espèce humaine en favorisant sa propagation, d'établir des lignes de démarcation entre les individus, les castes, les familles, les États, les nations, les empires. Ce plan providentiel se montre d'une manière plus saillante encore dans l'établissement des enfants d'Israël. Ce peuple normal qui, à tous égards, devait servir d'exemple au reste des hommes, fut renfermé dans les montagnes de la Judée, où il vécut complètement isolé des autres peuples. Là plus qu'ailleurs, on trouve des lois précises, impérieuses, dont l'objet est d'encourager, de forcer en quelque sorte l'extension des familles. Chez eux, la vertu du célibat est inconnue ou réprouvée. La paternité est un honneur, la stérilité un opprobre. Il fallait, avant que l'œuvre de la rédemption et de la réédification de l'unité humaine puisse opérer, que chaque peuple fût livré à lui-même, qu'il épuisât par le fractionnement de ses membres sa force propre. Il fallait, avant que la crève divine fût implantée dans la moelle du cèdre, que l'arbre humain se déterminât de sa vie propre et déployât ses rameaux et ses branches multiples. L'action providentielle, semblable à l'illustre ouvrier de Tyr qui présida à la construction du temple de la ville sainte, voulut préparer et en quelque sorte de façonner à part les divers éléments qui durent entrer à la suite des temps dans la structure de l'édifice immortel. Quand, après 40 siècles, la préparation est achevée, le Verbe divin s'incarne dans le produit le plus pur des générations humaines. Alors le mouvement de croissance s'arrête, la loi change, une révolution profonde et universelle s'opère dans toutes les directions sur la face du monde. Ne considérez plus les choses anciennes, dit le prophète, car voici que tout va être renouvelé. En effet, dès l'entrée de l'ère nouvelle, nous voyons les hommes de toutes nations et de toutes tribus se fondre. Les Parthes, les Mèdes, les Samites, les peuples de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, la Libye, les Romains, les Crétois, les Arabes, tous entendent l'annonce des merveilles de Dieu. Et lorsqu'on considère la diversité et la multitude des peuples que la parole apostolique appelle à l'unité, on pressent la réalisation des prophéties. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera auprès du chevreau, le veau, le lion et la brebis demeureront ensemble. Tout tend à l'union. Des voies de communication qui vont aboutir à Rome s'ouvrent de toutes parts et mettent en rapport des peuples jusqu'alors isolés et inconnus. Les héros de la parole divine sillonnent ces voies dans tous les sens, et sous leurs pas, les murs de séparation tombent, les montagnes s'abaissent, les distinctions de tribus, de castes, d'étrangers, de barbares, de libres, d'esclaves, j'allais dire d'hommes et de femmes, disparaissent. Puisque la réconciliation, l'union et la paix est annoncée à tous, Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Partout où la loi nouvelle pénètre, les choses anciennes déclinent, elles transforment les mœurs, les antiques usages, les coutumes séculaires. Évidemment, c'est une réaction foncière qui s'accomplit dans la vie de l'humanité. Aussi les sociétés et leurs institutions subissent-elles des modifications essentielles. La polygamie est réprouvée, le divorce aboli, la monogamie ennoblit le mariage et constitue la famille. La femme affranchie reprend sa dignité avec la liberté que l'Évangile lui donne. Le célibat, embrassé par une multitude de chrétiens, devient la condition des vocations supérieures. La maternité est entourée de respect et d'honneur, mais au-dessus d'elle plane une vertu angélique, la virginité, qui élève les âmes à la perfection du ciel. Tous ces faits attestent l'affaiblissement de la loi charnelle et le commencement du retour de la multiplicité à l'unité. Or, comment le genre humain, fractionné à l'infini, peut-il redevenir un? Comment les membres disséminés du grand corps de l'humanité seront-ils rétablis en un seul organisme? C'est la question qu'un naïf personnage de l'Évangile adressa au divin maître. Jésus lui répondit : « Vous êtes docteur en Israël et vous ignorez ces choses. En vérité, je vous le dis, si un homme ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Comme donc Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé en haut, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Sans doute que les membres du vieil Adam ne sauraient physiquement se constituer en un seul corps et se réharmoniser synthétiquement selon la chair. Ce qui est sujet à vieillir se fane, se flétrit et tombe comme la fleur des champs. Mais il y a quelque chose dans l'homme qui ne vieillit pas parce que son âme est immortelle. C'est par l'âme, par l'esprit, par l'être radical de l'homme et non point par ses formes et ses enveloppes extérieures que la fusion universelle doit s'accomplir. C'est dans l'âme, dans le foyer central de l'humanité, que le germe divin a été implanté. Comme la graine de Sénévé devient un arbre immense à l'ombre duquel les oiseaux du ciel se rassemblent, ainsi le céleste crin de l'arbre de vie posé dans l'homme. Il est descendu sur la terre pour remonter au ciel. Il s'élève comme une branche de grâce sur le tronc de l'humanité déchue, attirant à lui pour les entrelacer ensemble tous les rejetons d'Adam qui s'y attachent par la foi, participent à sa sève et s'unissent à sa vie. L'antique ennemi de l'homme avait divisé pour régner, le sauveur du monde règne pour unir. Adam, se précipitant, était tombé dans la multiplicité. Le Christ élevé sur la croix ramène les enfants de l'homme à l'unité. Le genre humain s'était épuisé dans une postérité innombrable, sa force était brisée, son cœur vide. Le Verbe divin y descend pour allumer dans son sein un nouveau foyer de vie. Il ranime l'immense organisme, réchauffe les membres languissants, guérit les plaies et y verse un vin qui réjouit le cœur de l'homme. Il restaure les organes, il fonde une admirable unité dont toutes les parties sont liées et cimentées par son sang, qui de son cœur ouvert jaillit et coule à travers les générations et les siècles jusqu'à la consommation des choses. Or, l'organisme de l'humanité régénérée, hâtons-nous de le dire, c'est l'Église. L'Église, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu incarné, Dieu fait homme, c'est le Verbe divin prenant un corps dans l'humanité, c'est le nouvel Adam naissant et se développant dans le sein du vieil Adam, c'est le genre humain revenant à l'unité. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ et la plénitude de celui qui opère tout en tous. Telle est l'idée de l'Église. Il n'est pas possible de comprendre le sens de l'histoire ecclésiastique si on envisage cette idée dans sa vérité et dans sa vivante réalisation. Il faut voir Jésus-Christ dans l'Église et l'Église dans Jésus-Christ selon ses propres paroles. « Je suis en vous et vous en moi, demeurez en moi et moi en vous. » Il faut voir dans l'Église la continuation de la vie même de Jésus-Christ, le développement de son humanité, la plénitude du corps qui se forme et dont il est le chef. Alors s'expliquent les paroles de l'Évangile qui marquent la communauté de vie entre le Maître et les disciples, l'identité de leur destinée, la communication de leurs souffrances, la participation à la même gloire. « Je vous envoie, dit Jésus-Christ, comme j'ai été envoyé. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui doivent croire en moi par leur parole, afin qu'ils soient un tous ensemble, comme vous, mon Père, êtes en moi et moi en vous. Qu'ils soient de même un en nous. Je leur ai communiqué la gloire que vous m'avez donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je suis en eux et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité et que le monde connaisse que vous m'avez envoyé et que vous les aimez comme vous m'avez aimé. Mon Père, je désire que là où je suis, là soient aussi ceux que vous m'avez donnés. Je leur ai fait connaître votre nom et le leur ferai connaître encore afin qu'ils aient en eux le même amour dont vous m'avez aimé et que je sois moi-même en eux. Ainsi se propage et se perpétue dans l'Église la vie de Jésus-Christ. Les disciples reproduisent le Maître, ils opèrent son œuvre, ils parlent sa parole, manifestent sa vertu, exercent sa puissance. De là les merveilles des saints, Jésus-Christ vit en eux. L'histoire de l'Église considérée sous ce point de vue présenterait le développement vivant, analytique, psychologique pour ainsi dire de l'humanité céleste. On la verrait croître et grandir à travers le temps et l'espace en grâce et en sagesse, en âge et en force, en science et en vertu, sous les mêmes conditions que chaque homme. À la seule différence que ce qui se fait pour l'individu avec des années se fait pour l'humanité avec des siècles. À chaque âge, à chaque phase de la vie humanitaire, on verrait poindre des facultés propres à cet âge et les besoins qui y correspondent. À chaque degré de maturité, on constaterait des progrès nouveaux avec de nouvelles grâces. En un mot, on verrait les nations et les peuples, à mesure que l'Église les embrasse dans son sein et se les incorpore, passer par les divers âges de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse, de la maturité, et concourir tous à l'édification de la grande unité humaine qui s'élabore en ce monde et se consomme au ciel. Cette unité, encore une fois, est l'idée qui domine l'Église. Elle est dans ses dogmes, dans sa morale, dans sa discipline, dans son culte, dans sa liturgie. Elle est la loi principale, essentielle, qui règle son activité. Elle est le but de sa tendance, le terme de son développement. Elle se réalise dans toutes ses institutions, par ses progrès et ses conquêtes, aussi bien que par ses défaites et ses révolutions. L'œuvre du christianisme est une œuvre d'union, et tout concourt à l'accomplissement de cette œuvre sublime. Ainsi, dit saint Augustin, l'Église, non seulement depuis Jésus-Christ et les apôtres, mais depuis Abel, le premier juste égorgé par son frère, se développe parmi les persécutions du monde et les consolations de Dieu, tout contribuant à son avantage. En effet, les persécutions, l'hérésie, le schisme, les adversités, les bouleversements, loin de nuire à son unité, la purifient. Car, ajoute le même docteur, tous les ennemis de l'Église, quelque erreur qui les aveugle ou quelque passion qui les anime, exercent sa patience, sa sagesse et lui donnent l'occasion de pratiquer la charité. De même que la tentation éprouve chaque fidèle, de même la persécution épure l'Église. Ce que la main du jardinier fait pour chaque arbre, la tempête le fait souvent pour tous les arbres de la forêt. Tous s'agitent, tous s'ébranlent, mais tandis que les uns se brisent et tombent, les autres, dégagés des plantes parasites et des bois arides, s'affermissent sur leurs troncs et reverdissent, quand la saison est venue, avec plus de grâce et de vigueur. Les grandes épreuves de l'Église, quelle que soit la diversité de leurs formes, peuvent être assimilées à celles qu'éprouve chaque chrétien dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Elles correspondent aux trois concupiscences dont parle l'apôtre. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. La première, selon l'expression de l'Écriture, se fait un dieu du ventre, et de là, la corruption des mœurs qui amène les schismes. La seconde se forge un dieu dans son esprit propre, d'où provient la corruption de la foi, l'hérésie. La troisième concupiscence, l'orgueil, renie Dieu, d'où résulte l'athéisme qui proclame que Dieu n'est rien, et le panthéisme, qui déclare que tout est Dieu. La concupiscence charnelle attire infailliblement les tribulations de la chair et les douleurs qui y correspondent. Quoi qu'on en dise, les grandes maladies et les grandes misères, les dévastations physiques comme les catastrophes sociales, viennent toujours à la suite de la perversité des mœurs, et on sent à la fois les conséquences et le châtiment. Rome tomba, selon la remarque de Montesquieu, quand l'épicurisme commença à s'y introduire, et l'histoire atteste que partout et toujours, la chute des trônes et des empires a été précédée par le luxe, la mollesse, l'immoralité des peuples et des grands. Que les bouleversements politiques ont toujours été préparés par la soif des richesses, par le délire de l'ambition, par l'enivrement des plaisirs, par les désordres et les passions sensuelles. Non point que ces désastres soient des châtiments arbitraires dont Dieu frappe les hommes, ce sont des maux inévitables, nécessaires. Ils arrivent d'après les mêmes lois qui font éclater les orages quand les nuages s'amoncellent dans l'atmosphère. Or, ces maux portent en eux-mêmes leur remède. L'atmosphère s'épure et se renouvelle par la tempête. Ainsi, l'Église sort triomphante de cette épreuve. Les persécutions locales ou générales dispersent, il est vrai, les âmes amolies, les chrétiens de nom ou de circonstance. Mais elles raniment la ferveur des vrais disciples, enflamment l'espérance, accroissent la charité, resserrent l'union, en font et les martyrs. La concupiscence des yeux est la tentation subtile d'un âge plus avancé, âge où la curiosité tourmente l'esprit de l'homme, où l'œil, avide de lumière, plonge témérairement dans la science et sonde les mystères. C'est l'épreuve des fausses doctrines qui fascine et captive les esprits inquiets, plus chrétiens en spéculation qu'en pratique. Il faut alors que l'hérésie se produise au dehors et se détermine. Elle ronge les membres de l'Église, mais les parties infectées sont bientôt retranchées. Le corps est purgé des venins de l'erreur, le dogme est dégagé de ses ténèbres par des définitions précises, la vérité reparaît avec plus d'éclat. L'épreuve de l'hérésie n'est donc pas plus fatale que celle des persécutions, elle contribue au contraire à la manifestation des doctrines de l'Église. Si les Domitien, les Dioclétien, les Valérien, les Maxence ont fait surgir les saints Sixte, les saints Laurent, les Polycarpe, les Perpétue et tant d'autres martyrs de la foi, les hérésiarques ont suscité les plus illustres docteurs de la science chrétienne. Arius a fait grandir saint Athanase, Pélage saint Augustin, Nestorius saint Cyrille, et les plus féconds enseignements de notre saint Bernard sont dus en partie aux écrits d'Abélard. L'orgueil de la vie et la concupiscence de la volonté humaine s'exaltant jusqu'à se diviniser. En tout temps, on a vu des cœurs superbes qui, dans leur folle orgueil, ont dit que Dieu n'est pas. Mais jamais plus que de nos jours, le panthéisme n'envahit toutes les branches des connaissances humaines. Jamais il ne formula plus nettement ses doctrines et n'en tira des conséquences plus hardies et plus captieuses. Serions-nous destinés de nos jours à subir cette dernière épreuve? Quels en seront les caractères et les suites? Notre objet n'est pas d'entrer dans cette question, mais ce que l'expérience de 18 siècles nous permet d'affirmer, c'est que l'Église sortira victorieuse de cette crise comme de toutes les autres, et que sa victoire affermira le règne de Dieu sur la terre. Le développement simultané du bien et du mal ici-bas nécessite un combat perpétuel qui fait la vie de l'homme sur terre et la vie de l'Église en ce monde. Nous lisons dans l'Écriture que ceux qui étaient employés à rebâtir les murs de la ville sainte faisaient leur ouvrage d'une main et tenaient leur épée dans l'autre. Telle est l'attitude de l'Église, telle est sa double fonction, elle est essentiellement militante, mais en même temps qu'elle combat, elle construit et édifie, grandit en silence et s'élève vers les cieux. C'est une erreur trop commune quand on parle de l'histoire ecclésiastique de confondre l'idée avec les faits, le plan divin avec les événements humains, et d'oublier que l'Église, comme la personnalité humaine, n'est pas seulement un corps, mais une âme. Cette distinction est très importante et nous pourrions en déduire ici plusieurs conséquences graves qui en ressortent. Nous en indiquerons deux, qui, dans la suite de cet ouvrage, trouveront une application spéciale. D'abord, c'est que pour être membre vivant de l'Église, il ne suffit point de s'attacher à son corps, à ses formes extérieures, mais il faut adhérer profondément à sa foi, participer à sa vie spirituelle et communiquer avec tous les véhicules qui transmettent, nourrissent et augmentent cette vie. Secondement, pour tenir et appartenir à l'Église, d'une manière intégrale et radicale, et il ne suffit point de se rattacher à sa foi, de professer sa doctrine, de puiser aux sources de sa vie. Il faut encore se lier à son corps, vivre dans sa forme indivisible, prendre place dans son éternelle hiérarchie. Car l'Église, dans sa partie humaine et corps et âme, elle est corporelle, en tant qu'elle réunit ou travaille à réunir tous les hommes en un seul corps de nation, sous le gouvernement d'un seul chef. Elle est spirituelle en tant qu'elle travaille sous la direction et l'autorité du même chef à l'union intérieure des âmes, à la consommation des saints. De là les diverses opérations dont parle l'apôtre et dont les unes se rapportent à la formation, à la conservation de l'unité extérieure, les autres à l'animation, à la sanctification de l'unité intérieure. Saint Augustin a vu toute la portée de cette distinction et l'indiquait clairement dans ses paroles. Il y a deux modes d'existence, deux sortes de vie dans l'Église. L'une se produit par la foi, l'autre se manifeste dans la forme. Celle-ci est assujettie aux vicissitudes du temps, celle-là participe à la stabilité, à la quiétude de l'éternité. L'une agit, combat, travaille, l'autre jouit, contemple et se repose. L'une est bonne, mais elle est encore dans la misère, l'autre est plus excellente, car elle goûte déjà la béatitude. La première est représentée par saint Pierre, la seconde est signifiée par l'apôtre Jean. Fin de citation. Il serait intéressant de constater par le développement même de l'Église la vérité historique de cette assertion, de caractériser sous ce double point de vue les paroles et les actes et les missions diverses des hommes apostoliques, de suivre à travers les générations les progrès simultanés de l'esprit intérieur et du corps de l'Église, d'étudier autant que cela est possible l'action et la réaction, l'influence réciproque de ces deux termes et les connexités nécessaires qui les lient. On verrait d'un côté les accroissements extérieurs et les transformations successives de l'Église dans le temps et l'espace, de l'autre on découvrirait ses communications incessantes avec le monde éternel, d'où elle tire la vie qu'elle transmet à tout le corps par différents organes. Ses rapports avec le ciel, d'où elle reçoit les germes célestes qu'elle transplante sur la terre, et les hautes inspirations, les idées fécondes, le feu divin qui, par intervalles, enflamme et illumine le monde. D'un côté, travail extrinsèque de la vie, activités religieuses et sociales, œuvres extérieures de charité, de science, de civilisation. De l'autre côté, vie ascétique, qui tend moins à se propager dans la multitude qu'à travailler à la perfection du petit nombre. Vie intime, cachée, qui se déverse avec précaution et se distribue avec mesure dans les âmes capables de la recevoir et de la comprendre. Vie des hommes de Dieu qui touchent à peine la terre et cependant y laissent des traces profondes et lui communiquent ses impulsions mystérieuses, ses vibrations étonnantes, qui souvent un point ignoré du globe, vont retentir jusqu'aux extrémités de l'univers. Il serait peut-être possible de rechercher et de saisir dans les entrailles de l'histoire ces foyers ardents d'où jaillit la lumière et de signaler les principes, d'où sortent, parfois à quelques siècles de distance, certains événements dont les causes initiales nous demeurent inconnues. On suivrait mieux alors la marche lente et solennelle de la Providence, si différente de nos vues étroites. On comprendrait mieux les origines des choses, leur signification, et à coup sûr, l'histoire ecclésiastique deviendrait plus vivante qu'elle ne l'est dans ses récits ordinaires. Car si on néglige cette face de l'histoire, son côté céleste, que reste-t-il, sinon une série de faits incohérents et des récits qui trop souvent affligent la piété? Il faudrait n'indiquer que d'une manière générale, les querelles et les conflits des passions humaines qu'on retrouve partout, étudier plus à fond la vie des saintes âmes qui appartiennent plus proprement à l'âme de l'Église, car c'est là surtout qu'est le mobile profond des choses et la raison secrète des phénomènes et des mouvements extérieurs. Rien n'est plus facile à reconnaître dès l'origine du christianisme que ces deux parties de la chrétienté. Le principe de l'unité catholique est nettement formulé dans l'Écriture, clairement consacré par la tradition. Pierre est choisi pour être la personnification de ce principe. Il est proclamé et reconnu comme le prince des apôtres, le chef des pasteurs et des brebis, la tête du corps de l'Église, et dès lors sa fonction souveraine, avec son caractère immuable et infaillible, dut se transmettre et s'est visiblement transmise d'âge en âge jusqu'au dernier temps. Mais au fond de la vivante hiérarchie, le cœur, l'âme, eut aussi en quelque sorte son type, son représentant dans l'Église. Ce centre mystérieux, quoique moins textuellement annoncé, est cependant, selon saint Augustin, positivement indiqué. Pierre, il est vrai, reçoit sa haute mission de la bouche du divin maître, mais Jean, le disciple de l'amour, semble recevoir la sienne sur le cœur même de Jésus-Christ. Seul entre tous les apôtres, il repose sur le sein du Sauveur, et là il puise, pour ainsi dire, la vie intime de ce cœur sacré, afin de le reproduire en lui-même et de le représenter substantiellement dans l'Église. La vocation de saint Pierre et de saint Paul est un fait manifeste, et tout le monde connaît les merveilles par lesquelles éclatèrent leur autorité et leur prééminence. Mais la vie de saint Jean est enveloppée de saintes ténèbres. L'apôtre de l'amour est donné à Marie, non comme un disciple à son maître, non comme un fils à son père, mais comme un enfant à sa mère, afin de demeurer avec elle dans le mystère, afin de perpétuer dans l'Église la voie ascétique, la voie de l'enfance évangélique, la vie intime, cachée, la vie du cœur de Jésus-Christ. Il y a toujours eu des continuateurs de la vie de Marie et de Jean, comme il y eut toujours des successeurs de Pierre et de Paul. Ceux-ci sont connus et doivent l'être. Les autres, pour être moins connus, ne subsistent pas moins dans l'Église. La tête de l'organisme est sa partie saillante, dominante. Elle doit être visible et accessible à tous, et aussi les souverains pontifes, successeurs du prince des apôtres, ont été posés comme la lampe sur le chandelier saint pour éclairer la maison de Dieu, pour luire comme l'œil de Dieu sur tout l'univers. Mais les âmes saintes qui composent le noyau mystérieux de l'Église mènent une vie cachée en Jésus-Christ et ne font sentir leur action centrale que par la chaleur vivifiante qu'elles répandent sur tous les points de la surface. Ce sont des foyers d'amour qui absorbent avec énergie le feu d'en haut. Leur influence est invisible comme celle du cœur, bien qu'elle éclate toujours par quelque côté. On les reconnaît à certains caractères, ils se distinguent par une humilité extrême, par leur éloignement du monde, leur répugnance pour les honneurs, leur refus de toute dignité, de toute autorité ostensible. Le mystère est l'élément de leur vie, la condition de leur action, la sphère de leur existence. C'est le plus souvent dans la solitude, dans la silencieuse cellule d'un monastère que réside l'âme inconnue, méconnue peut-être, qui attire par sa prière, ou souffle par sa parole, ou rayonne par son regard la céleste étincelle. Souvent encore, ce sont des femmes qui, par leur volonté plus passive, leur âme plus aimante, servent d'organe de transmission à la vertu d'en haut. Les femmes d'ailleurs, d'après toutes les indications de l'Évangile, appartiennent plus spécialement à la vie intérieure de l'Église. L'apôtre déclare que leur soin doit consister à parer l'homme invisible caché dans le cœur par la pureté incorruptible d'un esprit plein de douceur et de paix. Elles sont positivement exclues de toutes fonctions apparentes, de toute mission publique, et cependant elles exercent une sorte de sacerdoce intime dans le sein de la chrétienté. Elles conservent comme en dépôt les semences de la piété, et l'Esprit Saint dans le Cénacle a posé sur elles en la personne de Marie les rayons du feu apostolique aussi bien que sur les autres disciples. C'est une femme qui a offert sur l'autel du Golgotha le véritable sacrifice d'Abraham. C'est une femme qui la première a annoncé la grande et glorieuse nouvelle de la résurrection du Sauveur. Une femme se trouve presque toujours à l'origine des grandes choses, et l'on pourrait signaler à toutes les époques mémorables de l'histoire une de ces âmes d'élite qui, malgré son éloignement de la scène du monde, dirige, décide, arrête ou pousse les plus vastes événements. Combien le monde est redevable à ces âmes. Telle vierge simple et pure, vivant pour Dieu dans le secret et le silence, ignorée ou méprisée des hommes et s'ignorant elle-même, sauve souvent à son insu et à l'insu de tous la cité, la province, la région qu'elle habite. Comment les sauve-t-elle ? Par son amour, par ses souffrances, par sa prière. Elle puise aux sources des éternelles la vie qu'elle répand comme une rosée. Elle neutralise par la vertu divine dont elle est pénétrée les effets du mal. Elle présente au soleil de justice un foyer vivant où ses rayons puissent descendre. Et ainsi elle conserve le lien sacré, c'est-à-dire la religion qui tient la terre unie au ciel. Les prophètes déclarent qu'il n'eût fallu qu'une de ces âmes pour sauver Jérusalem. Je cite « Voyez et considérez, parcourez toutes les places de Sion, si vous trouvez un seul homme qui agisse selon la justice et cherche la vérité, je pardonnerai à toute la ville. J'ai cherché parmi eux, dit le Seigneur, un homme qui se présenta comme une haie entre moi et eux, et je n'en ai point trouvé. » Fin de citation. Le bien est contagieux comme le mal, plus que le mal, parce qu'il a plus de vertus substantielles, plus de forces expansives. Il se communique sympathiquement aux membres d'un même corps, et pourvu qu'il trouve accès dans l'un d'eux, il gagne de proche en proche et étend au loin son influence victorieuse. C'est ainsi que des âmes saintes expient par leurs souffrances les crimes de beaucoup d'autres, et que les larmes du juste lavent la terre du sang qui crie vengeance. On a vu cependant, et surtout dans les sombres jours de l'Église, quelques-unes de ces âmes puissantes appelées à remplir une mission plus spéciale, à exercer d'une manière plus directe et plus immédiate leur action décisive sur les destinées du monde. Alors, descendant de la sainte montagne avec Jésus-Christ, elles marchent sur la mer orageuse et apparaissent au milieu de la nuit devant la barque de Saint-Pierre comme des spectres lumineux qui projettent sur l'horizon une lueur inconnue. Elles commandent aux flots et à la tempête, les orages se taisent et la sérénité renaît au ciel et sur la terre. Toujours l'intervention directe de ces âmes qui tiennent au centre de l'Église annonce quelque chose de grand et d'extraordinaire. Il se passe alors dans le siècle engourdi des phénomènes étranges, semblables à ceux qu'on remarque dans certaines maladies sans nom, quand les organes sont paralysés et que l'action immédiate de l'âme remplace en quelque sorte toutes les fonctions suspendues. Lorsque le corps de l'Église est en souffrance, quand ses principaux organes manquent de vigueur et que la vie divine ne circule plus dans ses membres, alors arrive un secours inattendu. L'envoyé de Dieu se montre comme par enchantement aux portes de l'Église, proclamant les volontés du ciel, puis quand son œuvre est accomplie, il disparaît et rentre dans sa grotte solitaire, laissant à la chrétienté un nouvel ordre d'ouvriers évangéliques, à la société une nouvelle civilisation, à la science de nouvelles idées, aux arts de nouvelles découvertes, au monde de nouvelles espérances. Tel Saint Bernard, pauvre moine du XIIe siècle. Il parle, c'est la bouche de Dieu. Les papes, à savoir, reprennent force et puissance. Les empereurs, les rois, les princes de l'Église et du siècle ne sont plus que des instruments de sa parole. Les peuples émus le regardent et attendent. Il donne le signal et tous marchent à l'unisson. L'Europe entière se jette sur l'Asie et va réveiller l'Orient de son léthargique sommeil. Bernard a disparu du monde, mais après le long tumulte d'armes et de pensées qu'a soulevé son passage, que voit-on ? Une admirable unité se reconstituant au milieu des ruines et dans tous les ordres de choses. Union religieuse dans l'esprit de piété par la réforme de l'ordre monastique et clérical. Union ecclésiastique dans l'esprit d'obéissance par l'extinction des schismes. Union intellectuelle dans l'esprit de foi et de science par la lutte victorieuse contre le rationalisme et l'hérésie. Union politique par les résultats moraux et matériels des croisades. Et c'est un simple moine, un homme de prière et d'amour, un religieux sans autorité extérieure, sans richesse et sans pouvoir, sans force matérielle, sans secours humain, qui donne au monde cet universel mouvement. Dans les premiers temps de l'ère chrétienne, le foyer mystérieux de la vie évangélique est à Jérusalem. C'est de là que part la bonne nouvelle du salut. Pierre la porte à Rome et fonde le centre visible de la catholicité dans la capitale du monde. Rome est, si l'on peut dire, le pôle primitif et supérieur de l'organisme. Elle est par rapport à Jérusalem ce que la tête est au cœur. Rome a la primauté, la juridiction, l'autorité suprême. Elle tient les rênes de toutes les églises parce qu'elle est le siège du successeur de Saint-Pierre, le pasteur des pasteurs et le père de tous les fidèles. Elle a le dépôt des traditions, elle est l'infaillible interprète de la doctrine. Jérusalem est l'église mère, elle est sans éclat et sans apparence. Elle forme le nœud mystique qui attache le visible à l'invisible, le temps à l'éternité. C'est à Jérusalem que se compose, dans les commencements du christianisme, le noyau des âmes contemplatives qui, plus tard, se perpétueront dans les déserts, dans les cloîtres, dans les ordres monastiques. Aussi Paul, le grand apôtre des nations, en même temps qu'il soumet toutes les églises à l'autorité de Saint-Pierre, les lie entre elles et les unit surtout par les liens de la charité à l'église de Jérusalem. C'est dans ce but qu'il fait des quêtes en tous les lieux où il engendre de nouveaux fidèles. C'est sur les saints de la Judée qu'il appelle l'attention de toutes les églises de la terre. Non pas qu'il y eût des pauvres ailleurs, non pas, comme il le dit lui-même, que l'assistance temporelle soit le motif principal de cette aumône, mais il fallait des véhicules extérieurs aux relations d'une fraternité intime. Il fallait des témoignages visibles de communion et de communication entre les membres et le foyer primitif du corps. Plus tard, quand l'Église est organisée et que ses diverses parties tiennent ensemble dans l'unité de l'esprit par les liens de la paix, son développement présente successivement les divers caractères de la vie même de Jésus-Christ. Les chrétiens, pleins de foi et d'innocence, sont comme des enfants nouveau-nés, c'est le premier âge de l'Église. Son corps est à peine formé et déjà le sang coule. Les Hérodes du siècle le poursuivent pour lui ôter la vie. L'immolation d'une foule de martyrs reproduit le massacre de Bethléem. La dispersion des saints sur toute la terre renouvelle le mystère de la fuite en Égypte de Marie avec Jésus enfant. C'est ainsi, dit saint Bernard, que ce qui s'est accompli mystérieusement dans le chef se reproduit historiquement dans son corps. Pendant que les Sixtes, les Éleuthères et les autres saints pontifes de Rome maintiennent l'unité de l'Église contre les tentatives insidieuses ou cruelles des empereurs, les Cléments, les Justins, les Irénée, les Cypriens travaillent à l'union des esprits par leur lutte victorieuse contre les hérésies orientales, et saint Antoine, saint Hilarion, saint Pacôme, sainte Marie d'Égypte appellent les âmes intérieures dans les solitudes où la vertu germe avec force, comme dans de fertiles et vastes pépinières. Trois siècles de persécution, loin d'arrêter l'essor du christianisme, avaient rempli le monde de fidèles. Il était temps que l'Église se constituât publiquement et que son chef prît une position plus haute, plus analogue à son auguste fonction. Un nouvel âge amenait de nouveaux besoins. Ce fut une femme qui dépouilla l'Église des langes de l'enfance. La foi de sainte Hélène monte avec Constantin sur le trône, et du haut du trône, elle domine l'Empire. Alors la croix, si longtemps regardée comme un objet ignoble, se dévoile et apparaît à la face du monde, resplendissante de gloire, symbole de la victoire et du salut. Bientôt, les idoles du paganisme tombent, vaincues par la constance chrétienne, et laissent les temples vides. La parole de Jésus-Christ s'y fait entendre, l'Église catholique est politiquement reconnue, son chef est visible, étant son action sur toutes les régions du vaste empire. Les voies romaines facilitent les relations des évêques entre eux et leurs communications avec l'évêque des évêques. Des conciles plus fréquents, plus nombreux, permettent d'établir plus d'uniformité dans la liturgie, dans la discipline. Telles sont les suites heureuses de la conversion des empereurs. La vie chrétienne pénètre peu à peu dans les mœurs domestiques et dans les institutions sociales. Les lois reçoivent une sanction religieuse, elles obligent le fort intérieur et forment la conscience publique. L'affranchissement des peuples fait des progrès rapides, le christianisme a pris possession du monde. L'Église était alors dans toute la verdeur du printemps, elle présentait dans sa forme jeune et vigoureuse une magnifique floraison de vertus, d'idées, de sciences, de richesses intellectuelles, mais ces fleurs durent subir les intempéries. Ce n'est pas au printemps d'ailleurs que se fait la récolte. Il faut que les fleurs passent et que les feuilles tombent. pour que la fructification s'achève. Le règne de Constantin environna l'Église d'une auréole de gloire humaine. Il la combla d'honneurs et de richesses. La sainteté des fidèles en souffrit de profondes atteintes. De plus, la prodigieuse extension de l'Église, son contact avec la vie de ce monde et le mélange hétérogène des peuples qui embrassèrent la foi, obscurcirent les voies de l'esprit et firent prédominer la forme terrestre sur l'élément divin. Une purification énergique devint nécessaire. Les révolutions de l'Empire en firent les préludes. Le monde romain, après la mort de Constantin, se brise en deux parties, et en même temps s'affaisse le bras de chair sur lequel s'appuyait la société chrétienne. L'Europe, rongée par de subtiles hérésies, se détache peu à peu de l'Occident, où la foi, encore jeune et vierge, résiste plus longtemps aux envahissements de l'erreur. Arius est la personnification des doctrines désastreuses qui mettent le trouble et la confusion dans le IVe siècle. Sous des formes captieuses qui atteignaient le dogme de la divinité de Jésus-Christ, il séduisit les esprits flottants et faussa les croyances faibles et superficielles. Alors, de menace en nuage couvre l'Église, l'empereur Constance se livre aux Ariens, la puissance temporelle trop longtemps invoquée s'arroge le droit d'intervenir dans les choses spirituelles. Il en résulte un violent conflit dans la hiérarchie catholique qui l'obligera bientôt à combattre pour reconquérir la liberté religieuse. Plus tard, la puissance spirituelle maîtresse du monde provoquera une réaction dans le sens contraire. L'État social combattra pour conquérir la liberté politique. L'Église gémissait de ses rudes épreuves. Constance avait chassé de leur siège les évêques orthodoxes. La violence et la surprise causèrent la chute de plusieurs d'entre eux. Osius, autrefois le défenseur de la doctrine catholique, succombe au tourment. Le concile de Rimini, presque tout entier, se trouve, comme à son insu, enveloppé dans les filets de l'hérésie. Le désordre et l'esprit d'erreur semblaient triompher partout. Mais durant cette tourmente et au milieu des ténèbres du siècle, l'unité chrétienne présente dans les déserts de Cété de la Thébaïde un merveilleux spectacle. Des milliers de chrétiens désabusés du monde et d'innombrables vierges réunies autour de la sœur de Saint Pacôme pratiquent de concert les règles de la perfection évangélique et conservent dans son intégrité le dépôt de la piété chrétienne. Les serviteurs de Dieu, formés à l'école des déserts, rallument le flambeau de la foi vacillante. Le grand Athanase, comme un autre Élisée, hérite du manteau de Saint Antoine et marche dans son esprit. Il est jeté et rejeté d'Orient en Occident par les puissances du siècle, et sur la longue route de son exil, il sème la parole de vie et proclame le symbole de l'éternelle vérité. C'était le temps où la raison païenne contestait l'un après l'autre les dogmes chrétiens. Déjà les gnostiques avaient opposé leurs fausses traditions aux traditions apostoliques. Sabellius ne voulait reconnaître dans le mystère de la Sainte Trinité qu'une seule personne sous trois noms. Les Ariens avaient rejeté le culte du Fils de Dieu. Maintenant, c'est Macédonius qui nie le Saint-Esprit. Celestius et Pélage attaquent le dogme du péché originel et les semi-pélagiens attribuent aux seules forces de la raison le commencement de la foi et de la justification. Cependant, ces diverses hérésies échouent devant la digue romaine et, loin d'altérer la pureté de la foi, elles ne servent qu'à la mettre dans un jour plus lumineux. Le dogme se détermine par l'effet même des oppositions qu'on lui suscite et devient la base de la science chrétienne. Les docteurs de l'Église surgissent. Jérôme, simple prêtre retiré dans la grotte de Bethléem, entreprend des travaux immenses et fixe le texte de la divine parole dans une version que l'Église admire et consacre. Le savant Augustin, que sa propre mère enfante à la grâce, devient l'apôtre de la grâce et brille au milieu des lumières de l'Église. Toutefois, si dans cette période de lutte théologique nous cherchons la source cachée de la piété vive et vivifiante, c'est en Europe, en France, en Italie surtout, qu'il faut porter nos regards. On voit en effet dès le Ve siècle, Benoît et sa sœur scolastique répandre les semences de l'Évangile sur toutes les régions de l'Occident, dont ils défrichent le sol inculte, en même temps qu'ils en corrigent les mœurs barbares. Sur le sommet du Mont Cassin s'élevait un temple antique consacré à Apollon, Benoît y monte, il brise l'idole et renverse l'autel. Au milieu des ruines, il invoque le nom de Jésus-Christ. Ce fut l'origine d'un sanctuaire d'où sortit dans la suite des siècles une filiation de 37 000 maisons monastiques. La Providence avait réservé ce secours à l'Église pour la prémunir contre le choc des peuples barbares qui vinrent se ruer au milieu des nations chrétiennes. L'Orient et l'Occident durent subir tour à tour cette formidable épreuve. En Orient, malgré les efforts des disciples de saint Basile, l'élément barbare absorbe peu à peu l'élément chrétien, déjà corrompu par les doctrines d'Arius, de Nestorius et de Tychès. En Occident, au contraire, c'est le christianisme qui dissout et investit la domination barbare. Le pape Saint-Léon, comme un rempart inébranlable, s'oppose seul à la Ligue des peuples et les arrête aux portes de Rome. Sainte Geneviève, plus puissante que les armées gauloises, les arrête aux portes de Paris. Les eaux vives qui descendent du Mont Cassin et se répandent sur toutes les terres de l'Europe adoucissent les peuples nouveaux. Bientôt l'Église, dégagée des sectateurs turbulents d'Arius, impose sa loi au maître de l'Empire, l'unité catholique plus compacte que jamais sort triomphante des ruines de l'ancienne Rome et de la barbarie. C'est un fait unique et le plus extraordinaire de l'histoire que cette permanence de l'Église, attaquée de toutes parts et toujours combattant, sans jamais succomber. Tandis que l'Europe est bouleversée en tous sens, que toutes les barrières sont rompues, toutes les portes ouvertes, toutes les puissances abattues, et que le grand empire se décompose en mille pièces, l'Église reste debout et subsiste. Elle subsiste intègre dans sa foi, vivante dans son unité, pure et incorruptible dans sa doctrine, invariable dans son enseignement, bien qu'elle tolère les lois, les coutumes, les mœurs invétérées des nouveaux maîtres du monde, devenus ses propres enfants. Ce fut sans doute un temps de perturbation et de ténèbres, et durant le règne de la barbarie, on ne découvre qu'avec peine les progrès incessants de l'Église. Néanmoins, au milieu du tumulte et de la fermentation universelle, l'œuvre divine se poursuit chez tous les peuples. Tous entendent la parole, tous ressentent l'attraction mystérieuse qui appelle à l'union les éléments hétérogènes. Le côté visible de l'Église est obscurci, la couronne de l'arbre disparaît en quelque sorte dans les nuages, mais ses racines éternelles plongent dans une insondable profondeur et se nourrissent de dessous des décombres du monde d'un suc divin qui prépare des fruits nouveaux et merveilleux. L'arbre catholique reverdit au VIe siècle, l'illustre Clotilde présente le fruit de vie aux valeureux chefs des Francs, et par son influence, les apôtres de l'Occident vont convertir la noble nation gauloise. Clovis, le plus zélé des princes de son temps, mérite le titre de roi très chrétien dont ses successeurs se décorent avec un juste orgueil. La parole évangélique, dès lors, fait de rapides conquêtes et se propage de contrée en contrée. Les saints messagers du pape Grégoire le Grand abordent en Angleterre, la France les protège, des évêques français les consacrent, une princesse de France, la pieuse Berthe, convertit le roi et Telbert son mari. Une autre sainte non moins illustre, la fille du roi de Mercie, est embrassée d'un zèle divin et communique son ardeur à sa mère, sainte Herménilde. Toutes les deux, illuminées d'une même lumière, se retirent dans le cloître et donnent naissance à ces nombreuses maisons de prière qui fécondent l'Église anglicane et y font renaître la sainteté des temps primitifs. Grégoire avait été élevé malgré lui sur le siège apostolique. Ce grand pontife soutient le monde et l'éclaire par la sagesse de son gouvernement et la clarté de ses écrits. Sa sollicitude s'étend aussi loin que la catholicité. Par ses soins, les mœurs du clergé et des fidèles se réforment selon les principes de l'Évangile. En Espagne, il confirme les Visigoths dans la foi orthodoxe, il fortifie en Afrique les églises qui défaillent, les Lombards et l'Italie rebelle quittent le schisme et rentrent dans l'unité. Partout l'ordre se rétablit, la discipline se restaure, l'hérésie s'écoule, la hiérarchie se resserre, le règne de Dieu triomphe. Mais pendant que l'Église refleurit en Occident, en Orient, tout périt et se dessèche. Le mystère d'iniquité qui s'est formé dans le monde, en même temps que le mystère d'amour et s'est développé parallèlement avec lui, se rend visible au VIIe siècle. Mahomet paraît, sa doctrine de chair et de sang, soutenue par l'attrait des plaisirs à la terreur des supplices, captive avec une prodigieuse facilité les orientaux amollis et dégénérés. Elle envahit la cité sainte et les antiques patriarcats d'Asie. Elle chasse le christianisme des lieux de son enfance. Elle pénètre, toujours précédée du glaive, dans les églises d'Afrique jadis et si florissantes et en efface jusqu'aux dernières traces. Sur toutes les terres que fonde Mahomet, l'apostasie commence son égire. Elle travestit l'œuvre divine, son règne s'organise et se constitue à l'instar du royaume de Dieu. Elle établit à la Mecque la parodie de Jérusalem, elle fonde la nationalité bâtarde du fils d'Ismaël, dont les 12 patriarches figurent dans la Genèse aussi bien que les 12 fils de Jacob. Et à cette nationalité se joignent et adhèrent tous les peuples charnels qui composent en s'étendant le vaste empire des califes. Cependant, à mesure que l'Orient se détache, les peuples occidentaux convergent plus vivement vers le centre de l'unité catholique. Les prodigieux travaux des disciples de saint Benoît avaient préparé de loin l'empire de Charlemagne. Leur esprit évangélique s'était perpétué par une filiation d'âmes saintes qui brillaient comme des étoiles au milieu de l'obscurité des siècles. Le moine anglais saint Boniface, devenu archevêque de Mayence et apôtre de l'Allemagne, établit sur les bords du Rhin plusieurs couvents de saintes femmes venues d'Angleterre afin de nourrir la piété des peuples nouvellement convertis. L'une d'elles, sainte Liobe, d'une illustre famille anglo-saxonne, abbesse de Fulde, vivait dans l'intimité de la reine Hildegarde, femme de Charlemagne, et sa correspondance avec l'archevêque de Mayence atteste la part prépondérante qu'elle prit aux plus graves déterminations de la cour d'Aix-la-Chapelle. Sainte Valburge, associée à cette pieuse colonie, s'acquit une si universelle considération que par une exception inouïe, elle fut chargée d'inspecter non seulement les monastères de femmes, mais encore le couvent des moines de Heidenheim. Les merveilles de sainteté qui éclatèrent dans ces heureuses contrées doivent leur origine aux semences précieuses qui déposèrent les filles spirituelles de saint Boniface. Un travail interne faisait naître dans toute l'Europe le même esprit et les mêmes besoins. La religion avait établi des relations et des intérêts communs entre la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Germanie. Le pape Léon III comprit la tendance de son époque. Il conçut la pensée hardie de faire revivre l'Empire romain afin de cimenter l'union religieuse par l'unité politique. Fort de son inspiration, il exécute son dessein sans consulter le prince français et pose la couronne impériale sur la tête de Charlemagne. Ainsi reparaît en l'an 800 par l'autorité du Saint-Siège l'Empire d'Occident qui avait cessé avec Augustule en l'année 476. Charlemagne est manifestement suscité pour coordonner ensemble les peuples européens et pour donner une impulsion forte et uniforme au mouvement ascendant de la société chrétienne. Sa puissance devient le véhicule de l'autorité apostolique. Toujours et partout vainqueur, il consolide l'indépendance des souverains pontifes, jusqu'alors harcelés par les Lombards, par les autres maîtres de l'Italie et par les Romains eux-mêmes. Il unit son épée au glaive spirituel afin de réprimer les abus et les désordres, pour soutenir les droits de la justice et assurer l'exécution des sages règlements du Saint-Siège. Tant de peuples, auparavant étrangers les uns aux autres et devenus tout à coup frères en entrant presque tous à la fois dans le sein de l'Église, avaient besoin d'être unis par un lien plus puissant que la force. Il fallait que l'instruction vînt dissiper leurs ténèbres et leur apprendre leurs vrais intérêts et leur destinée commune. Charlemagne pourvoit à ses besoins. Il établit dans son propre palais un foyer de lumière. Il appelle à lui les moines les plus habiles dans les lettres et les sciences, les Alcuins, les Éginards, Adelard de Corby, surnommé l'Augustin de son siècle, Gundrad, sa sœur, aussi célèbre par son génie que par sa haute vertu. Et avec leur secours et celui de plusieurs autres disciples de saint Benoît, ils fondent des écoles, répand la lumière, anime le goût des études et provoque partout le réveil de l'esprit. La chrétienté était parvenue sous les sceptres de Charlemagne à un haut degré de grandeur spirituelle et matérielle, mais nous l'avons vu, l'existence terrestre de l'Église présente comme celle de l'homme une alternative continuelle de gloire et d'obscurcissement, de repos et de combat, de succès et de défaites. Et malgré la stabilité de son état intérieur, malgré la permanence de son être immortel, elle est assujettie dans sa forme ou dans son corps aux vicissitudes des temps et de la vie humaine. Dans la dernière moitié du IXe siècle, le chaos recommence. Le grand corps politique se décompose entre les mains débiles des fils de Charlemagne. De toutes parts, les peuples rompent leurs bancs et débordent en Europe. Les Sarrasins en Espagne, en Sicile et presque aux portes de Rome, les Hongres en Allemagne, les Normands au nord, les Huns à l'est, les Slaves au nord-est, et une foule d'autres peuplades, sans nom et sans patrie, errant sur tous les chemins, se rencontrent, s'entrechoquent, se brisent, se mêlent ensemble dans leur propre sang et font du monde entier un horrible champ de bataille. Ces calamités vinrent à la suite des affaiblissements de la chrétienté, dont le sein était déchiré par des malheurs d'un autre genre. La puissance temporelle des papes, qui se condamnent d'une manière si énergique leur action spirituelle et fut si utile à la civilisation naissante, eut aussi ses abus, et ils se firent ressentir à tous les degrés de la hiérarchie catholique. Le sacerdoce perdit sa dignité, et les peuples chrétiens oublièrent jusqu'aux premières notions de la science du salut. On vit en ces jours mauvais, des légats de Rome avides de richesses et infidèles à leur mission, apportent le trouble là où ils durent annoncer la paix. Personne n'ignore la prévarication de ceux qui avaient été chargés de pacifier l'Église de Constantinople. Depuis longtemps, les Grecs, abandonnés à l'esprit d'orgueil, supportaient avec impatience les grandeurs de Rome. En 866, la rupture si redoutée éclate. Les disputes sur le dogme n'en sont que le prétexte, et le perfide Photius, imitant la révolte des Jéroboams, entraîne les Grecs hors des voies de la vérité après les avoir détournés du centre de l'unité. La nuit s'amoncelait de plus en plus sur cette triste époque. L'Église, ravagée au dehors par les fléaux de la guerre et du schisme, ruinée au-dedans par ses propres pasteurs, semblait avoir perdu la route de l'avenir. Les ordres monastiques eux-mêmes, qui jusqu'alors avaient résisté au marteau des épreuves, se trouvaient dépourvus de cette force intérieure qui répare les pertes et ranime invisiblement la vie. L'ordre de Saint-Benoît, si fort dans son principe, si fécond dans ses produits, avait porté ses fruits. Maintenant, les membres de cette antique et vaillante milice, enrichis par la munificence de Charlemagne, s'endormaient dans l'abondance des biens de la terre. Leur maldiscipline, leurs règles austères, leurs laborieuses études n'avaient plus de nerfs. Leur esprit, obscurci par les ténèbres du siècle, ne projetait plus la lumière qui éclaire le monde. Ce n'est pas que dans le sein de cet ordre, il ne se trouva plus d'organe de l'esprit divin. Mais sa sève passe à des branches nouvelles sorties de cette tige célèbre. Au Xe siècle, le foyer n'est plus au Mont Cassin, c'est à Cluny, sur la terre toujours fidèle des Gaules, que l'Esprit Saint forme la source mystérieuse qui bientôt devait féconder les champs altérés de l'Église. Ce saint ordre, dit un chroniqueur, composé d'abord de 12 frères, multiplia merveilleusement et remplit la terre d'armées innombrables de serviteurs de Dieu. Toutes les congrégations renommées de l'Italie et des Gaules adoptèrent les règles de Cluny. Fin de citation. De là sortirent les saints Bernon, les saints Odon, saint Hugues, saint Mailleul, saint Odilon, Pierre le Vénérable et une foule d'autres réformateurs illustres qui, dans le sein des monastères, rétablirent les pratiques pures de la vie ascétique, et dans le monde, dirigèrent les rois et les peuples dans les voies de la modération et de la justice chrétienne. Munie de ces ressources, l'Église parvint à un nouveau degré de son développement. Elle a traversé les diverses phases de l'enfance et de l'adolescence, elle en a manifesté les défauts et les qualités. La fin du Xe siècle, époque d'angoisse et d'universelle frayeur, fut pour elle un âge critique. À l'entrée du XIe, lorsque le premier millénaire du christianisme fut passé, les peuples, revenus des terreurs que leur avait causées l'appréhension de la fin du monde, commencèrent une ère nouvelle. Remarquons ici l'admirable économie de la Providence dans la répartition des dons de la grâce selon les situations et les besoins de l'humanité. À chaque phase de l'Église, de nouvelles influences prévalent, de nouveaux secours apparaissent. Tantôt, quand la vie psychique faiblit, on voit les hommes du mystère, les âmes d'élite, de saints anachorètes, enfonter des générations spirituelles et réchauffer de leurs paroles brûlantes la piété chrétienne. Tantôt, quand l'esprit de vérité est entravé dans son essor et que l'Église se débatte avec l'erreur, on voit la sainteté, la force, la science éclater sur le siège de Saint-Pierre et maintenir la doctrine orthodoxe contre toutes les puissances de l'enfer. Tantôt, quand le corps de la société chrétienne périclite et que les liens politiques se relâchent, comme dans le IXe et le Xe siècle, ce sont des princes séculiers que Dieu suscite pour soutenir l'ordre et la justice. L'histoire des différents États de l'Europe dans le XIe siècle vient à l'appui de cette observation. À aucune époque, on ne vit en même temps plus de saints rois assis sur les trônes du monde. La couronne impériale que les rejetons dégénérés de Charlemagne avaient abandonnée aux princes allemands brillait alors d'un vif éclat sur la tête d'Othon le Grand. À la mort de cet empereur, la régence de ces vastes États échut à Sainte Adélaïde, sa veuve, qui dirigea les conseils de son fils Othon II, procura la conversion de plusieurs peuples de la mer Baltique, réconcilia les Bourguignons avec leur roi Rodolphe et introduisit dans les affaires publiques l'ordre parfait qu'elle avait établi dans sa propre maison. L'empereur Saint Henri II, proche parent et successeur des trois Othons, élevé sous les yeux du savant évêque Wolfgang, justifia le choix du corps germanique qu'il éleva sur le trône en l'année 1002. Il réunit en sa personne les vertus chrétiennes, royales et guerrières, captivant par sa clémence les peuples révoltés de la Lombardie et maîtrisant par ses armes la Pologne, la Bohême, la Moravie et les Sarrasins qu'il chassa d'Italie. La femme de ce pieux monarque, Sainte Cunégonde, est mentionnée par tous les historiens pour la part directe qu'elle prit aux nombreuses et utiles institutions de l'Empire. Si de la Germanie nous portons nos regards sur d'autres contrées, nous serons encore frappés du même spectacle. En Hongrie, l'illustre Saint-Étienne, auquel le pape Sylvestre II conféra le titre de roi au commencement du XIe siècle, extirpe l'idolâtrie de ses États, promulgue un code qui dura plusieurs siècles et règle les relations morales et civiles de ses sujets. En 1080, un autre saint roi, Ladislas Ier, continue l'œuvre d'Étienne, son prédécesseur. Il ne se contente point de consolider la nationalité dans ses propres États. Il prend les armes contre les Huns, les plus redoutables et des barbares, et après les avoir humiliés en plusieurs rencontres, il défait les Polonais, encore idolâtres, les Russes et les Tartares. Saint Canute, le compétiteur de Guillaume le Conquérant, régnait en Danemark. Ce grand capitaine, aussi pieux que vaillant, contrebalança l'influence croissante des puissants ducs de Normandie et mourut martyr de son zèle en introduisant la loi chrétienne dans les provinces de Courlande et de Livonie. La Norvège était perpétuellement en guerre avec les Suédois. Elle fut pacifiée dans le XIe siècle par le roi Olaus, que l'Église honore également d'un culte public. Ce prince doué d'une haute sagesse avait fait venir d'Angleterre des moines recommandables par leur science et leur piété, et ce fut par le conseil de ces hommes éclairés qu'il encouragea les études et fit fleurir des lois équitables, non seulement dans son royaume, mais aussi en Islande, où la foi s'était propagée. Saint Édouard le Confesseur, éprouvé par de grandes infortunes, monta en quelque sorte miraculeusement sur le trône d'Angleterre en 1042. Sous son règne, un des plus heureux dont l'histoire conserve le souvenir, on voit disparaître l'arbitraire et les désordres. Le code connu sous le nom de loi d'Édouard le Confesseur devint le fondement du droit britannique et fut solennellement confirmé par Guillaume le Conquérant. La sage administration du pieux roi, dit un historien, avait autant et même plus de pouvoir sur le peuple que le texte et les lois. L'harmonie qui régnait entre lui et l'Assemblée générale de la nation produisit un bien-être qui devint l'idéal de ce que les peuples désiraient sous les règnes suivants. Les barons anglais aussi bien que les normands en appelaient à la loi et à l'administration d'Édouard. Les historiens parlent dans les mêmes termes de la reine Édith, sa femme, qui joignait des qualités éminentes à un grand savoir. Une autre reine célèbre, Sainte Marguerite, parente de Saint Édouard, régnait avec Malcolm en Écosse et perpétua dans sa race les précieuses traditions qui rendirent son nom si cher aux Écossais. Les Slaves eux-mêmes, ceux qui habitaient la côte septentrionale de l'Allemagne, eurent à leur tête, dans le XIe siècle, un prince chrétien godescal, auquel l'Église rend le culte des saints et que les chroniques contemporaines exaltent comme un héros. En France, la dynastie royale venait d'être renouvelée et le pieux Robert, succédant à la puissance restreinte de Hugues Capet, hérita de la sagesse de ses pères et continua leur politique, dont le but était d'absorber en un seul corps de nation les différents États indépendants qui se partageaient la Gaule. Ce prince entretint des rapports suivis avec l'empereur Henri, et tous deux s'accordèrent à pacifier les peuples et à les diriger dans les voies chrétiennes. Le XIe siècle est évidemment une époque constitutive et d'affermissement. L'Esprit de Dieu anime les souverains et préside à leurs conseils. La fluctuation des peuples a cessé, les émigrations générales se sont arrêtées, partout la parole civilisatrice de l'Évangile a retenti, et les nations barbares se trouvent foncièrement mêlées et fondues avec les peuples chrétiens. Il fallait, avant de fonder les États distincts de l'Europe moderne, que les peuples fussent amenés, par des croisements et des mouvements en tous sens, aux différentes places qu'ils durent occuper sur la terre et dans les milieux et les rapports les plus convenables à leur développement. L'humanité chrétienne était alors dans son adolescence, les facultés correspondantes à cet âge s'étaient épanouies et réclamaient une sphère d'action plus large et plus relevée. Le mouvement de croissance se faisait remarquer moins dans le corps que dans l'esprit. L'Église entre dans l'ère du progrès intellectuel. Déjà la raison moderne commence à poindre et se manifeste par des organes isolés. Ces impatiences contre les entraves, ces révoltes contre l'autorité ne sont que les préludes de son émancipation. Mais la faculté qui domine presque exclusivement cette époque, c'est l'imagination. Reflétant en mille nuances la lumière de la foi, elle éprouve le besoin d'exprimer tout en images, de peindre, de symboliser les mystères qui jusqu'alors étaient demeurés cachés dans le sanctuaire. De là les merveilleux progrès de l'art chrétien et les productions monumentales du Moyen-Âge. Cependant, à mesure que l'esprit intérieur se jette au dehors et que les temples ouvrent leurs larges portails pour s'éclairer de la lumière du monde, la lumière divine se retire. Le développement excessif des œuvres d'imagination, loin de seconder la foi chrétienne, l'obscurcit et l'abaisse. La piété dégénère et se dessèche quand elle s'attache exclusivement aux formes extérieures au lieu de puiser son aliment immortel à la source de la vie. Ces abus dont saint Bernard a déploré les excès caractérisent le siècle dont nous parlons. Les extravagances de l'imagination produisirent les dérèglements de la conduite et le clergé aussi bien que les fidèles se laissèrent entraîner aux écarts de l'esprit et des mœurs. Du reste, quand on considère avec quelque attention les trois siècles qui suivirent le premier millénaire, on est frappé de l'originalité que présente cette turbulente époque. C'est en grand et sur une échelle immense la vie de l'adolescent livrée aux divagations de sa volonté et d'une imagination ardente. Généreux, entreprenant, passionné, sans expérience du monde, l'homme du Moyen-Âge rêve un vague idéal. Ce n'est pas la vie grossière des sens, ce n'est pas la vie prosaïque de la raison, ce n'est pas le chemin battu du milieu entre la vertu et le vice. La modération, la tempérance et la prévoyance sont choses peu connues en ce temps. On poursuit quelque objet sublime à travers toutes les voies bonnes ou mauvaises et ne pouvant l'atteindre, la volonté s'irrite ou se décourage. Elle est toujours dans les excès de l'exaltation ou de l'abattement. Elle s'élance aux sommités de la perfection ou se résigne à l'ignominie. Tel est le caractère du Moyen-Âge où l'on ne rencontre rien de médiocre. Aussi, cette période est-elle surtout remarquable par la diversité tranchée des œuvres qu'elle enfante. La bizarrerie est dans tous les ordres de choses. Dans la vie privée, c'est le besoin d'émotions fortes, l'amour des courses aventureuses, la passion ardente, capable de grands crimes ou de grandes vertus. Dans la vie publique, c'est l'effervescence des peuples, impatients d'affranchir la Terre Sainte, plus impatients encore de s'affranchir eux-mêmes. Dans la science, c'est le goût des subtilités orientales envahissant la théologie et soulevant à tout propos des questions audacieuses qui se multiplient sous le glaive du bourreau appelé à les trancher. dans les arts, c'est l'alliance monstrueuse du beau et du hideux, se produisant ensemble jusque sur le fronton des temples, où l'on voit dans un même groupe des monstres grotesques et les anges du ciel, des vierges gracieuses et des figures infernales. Le clergé, avons-nous dit, participait à l'esprit du temps. Les ordres monastiques eux-mêmes en furent atteints, et ils offraient le contraste choquant des passions les plus opposées à leur vocation, professant la pauvreté et accumulant des trésors, renonçant au monde et vivant dans le train du siècle, faisant vœu d'obéissance et voulant dominer partout. Un tel état de choses compromettait l'Église, mais de l'excès du désordre allait sortir un ordre nouveau. Le mouvement de rénovation partit d'un simple moine. Hildebrandt, poussé par l'Esprit de Dieu, sort de sa cellule et va s'asseoir sur le siège de Saint-Pierre où les voies romaines l'appellent. De cette hauteur, dominant à la fois le corps et l'intelligence de l'Église, Grégoire VII dirige toute la sphère de l'activité humaine et s'empare du gouvernement général du monde. Son idée, c'est la grande idée catholique, l'unité. Son plan, c'est de catholiser le monde en rattachant tous les pouvoirs sociaux à la hiérarchie ecclésiastique. Sa mission, c'est de régénérer par l'action centrale de la papauté, d'une part la puissance spirituelle, de l'autre la puissance politique, afin de les réharmoniser dans un foyer commun. Cette harmonie a été le problème de toutes les phases critiques de l'histoire. Toujours on chercha à déterminer les rapports et les limites des deux puissances. L'une ressort-elle de l'autre ? L'État doit-il se séparer de l'Église ? L'Église doit-elle se séparer de l'État ? Ou bien les deux pouvoirs doivent-ils être identifiés ? Questions graves qui ont soulevé d'interminables débats. Grégoire VII, Nouvel Alexandre, tranche ses difficultés. Il proclama à la face du monde le principe de la suprématie spirituelle et déclara que la papauté représentant Dieu sur la terre est nécessairement élevée au-dessus de toutes les puissances du monde. Pénétré de cette vérité, le saint pontife en tira hardiment les conséquences et s'efforça de les réaliser. Il faut le dire, malgré ce qu'elle pouvait avoir d'intempestif dans son application au siècle, malgré l'effervescence et les contradictions qu'elle excita de toutes parts, il était bon que cette haute doctrine fût annoncée. Le temps était venu où le principe de la centralisation universelle, idée fondamentale du christianisme, dut être promulgué et implanté dans le monde, et tout en déplorant les abus et les sanglants démêlés qui s'y rattachèrent, et quelle vérité est entrée dans le monde sans effusion de sang, on ne saurait méconnaître l'impulsion merveilleuse que ce principe a donnée à la civilisation. Ce n'est point ici le lieu de justifier tous les actes de Hildebrandt. Il n'y eut peut-être, dans l'expression de son vouloir, quelque chose d'exclusif, de dur, de trop inflexible. Mais si à la distance où nous sommes placés de cette mémorable époque, nous voulons en apprécier le caractère, il faut, sans s'arrêter aux détails, envisager l'ensemble des progrès accomplis et les résultats généraux. La rénovation politique qui s'était manifestée au commencement du XIe siècle manquait d'essor parce qu'elle ne trouvait point d'appui dans le clergé. La piété des princes contrastait alors avec la mollesse des pontifes, et tandis que tous les États chrétiens cherchaient à prendre forme et consistance, Rome était demeurée en dehors du mouvement. Les Sergius III, les Benoît IX, les Jean X et plusieurs de leurs éphémères successeurs avaient laissé languir l'action du Saint-Siège qui eût dû présider à la civilisation européenne. De là une perturbation des pouvoirs et une déplorable confusion dans les esprits et dans les choses. Le corps ecclésiastique, isolé et morcelé par le démembrement des petits États et la multiplicité des barrières, était comme abandonné à lui-même et végétait profondément endormi dans la vie matérielle. Les princes séculiers, privés de lumière et de direction, s'étaient arrogés, d'abord par zèle, ensuite par intérêt, l'administration des choses spirituelles. Les prêtres se firent guerriers, les rois trafiquaient des dignités sacrées, partout les évêchés, les abbayes, les titres et les bénéfices ecclésiastiques devinrent la proie des princes temporels qui en gratifiaient leurs créatures ou les vendaient au plus offrant. Rome elle-même n'avait pas su se préserver de ces abus. Et tant de désordres dont saint Bernard eut à combattre les tristes effets semblaient alors sans remède. Le témoignage des historiens du temps peut seul en faire comprendre l'étendue. Les princes, dit le moine de Cluny que nous avons déjà cité, choisissent en général pour gouverner les églises et les âmes chrétiennes des hommes dont ils espèrent recevoir le plus de présents. Aussi des téméraires, n'ayant d'autre titre que leur fortune, se poussent dans les prélatures et mettent leur confiance non point dans les dons de la sagesse, mais dans les hasards de l'or et de l'argent qu'ils amassent, et une fois parvenus à la tête des églises, ils donnent un libre cours à leur cupidité, seul Dieu qui règne dans leur âme. La piété des évêques n'est plus qu'un vain nom, l'austérité des abbés se relâche, le zèle de la discipline monastique se refroidit, et le vieux Léviathan reprend confiance. Fin de citation. Grégoire VII entreprit de guérir ses plaies. Quel courage, quelle vigueur n'a-t-il pas fallu à ce pontife pour attaquer de front l'incontinence d'éclairs, les prétentions des souverains et relever en même temps l'autorité du siège apostolique de son profond abaissement. Seul, il lutte contre toutes les puissances et toutes les passions déchaînées et il poursuit son but sans redouter ni les révoltes occultes des princes de l'Église ni les guerres ouvertes des princes du monde. À ceux-ci l'arrache le privilège de conférer les dignités ecclésiastiques, et alors commencent ces longues et violentes querelles connues sous le nom de guerre des investitures, dont le résultat définitif fut l'affranchissement de l'Église. À cela il oppose la loi du célibat, antique prérogative des prêtres catholiques qu'ils avaient laissé tomber en désuétude, mais qui est la condition de leur spiritualité, la sauvegarde de leur vocation, le gage de leur dévouement et de leur haute dépendance. Le temps de la raison était arrivé. Dans l'humanité comme dans l'homme, elle n'entre en exercice que par l'opposition. Dès le commencement du XIIe siècle et au plus fort des querelles qui divisaient les deux pouvoirs, de faits remarquables se produisent presque au même moment. L'affranchissement de la raison qui introduit dans les écoles de théologie un esprit de critique et de licence, l'affranchissement des communes dans différentes contrées de l'Europe qui ouvre la porte à la licence en même temps qu'à la liberté. L'idée de la liberté, telle que le nouvel âge de l'Église l'a comportée et telle qu'elle devait se développer dans le monde moderne, travaillait la civilisation. Son développement graduel, s'opérant sous l'influence chrétienne et s'adaptant aux besoins des peuples, eut peu à peu modifié les institutions sociales et rendu aux deux pouvoirs, en ascendant moral, ce qu'elles leur ôtaient en puissance matérielle. Mais telle ne fut point la marche des choses. Soit par la faute des gouvernants ou par celle des peuples, soit par défaut de maturité des uns et des autres, la liberté fit fausse route en politique comme en religion, et elle se heurta contre des écueils qui retardèrent longtemps son essor. En effet, toutes les tentatives de la raison émancipée tendaient dans l'une et l'autre sphère à une indépendance grossière et matérielle. Si l'affranchissement des communes s'était accompli dans le sens égoïstique des bourgeois libres du XIIe siècle, on eut bientôt vu chaque ville, chaque commune convertie en république indépendante et tout le sol de l'Europe morcelé en une infinité de petits États ennemis entre eux et sans aucun lien d'union. De même dans l'ordre religieux, si l'affranchissement de la raison s'était opéré dans le sens des libres penseurs de l'école de Jean Érigène, de Rosselin, d'Abélard, on eut vu chaque église transformée en arène scolastique et la chrétienté divisée en une multitude de sectes discordantes sans aucun foyer commun. La réaction dans les deux ordres de choses outrepassa le but et dut échouer contre, comme tout ce qui se fait, en dehors des voies de la Providence. L'opposition, d'abord dirigée contre les abus de l'autorité, se dressa bientôt contre l'autorité elle-même et cette digue une fois rompue, les flots de l'erreur envahirent impétueusement les doctrines humaines et préparèrent des fléaux terribles pour les siècles postérieurs. Le pape et les souverains toujours en guerre se prêtaient vainement un appui mutuel pour arrêter les progrès de l'esprit d'insubordination. Mais les censures fulminantes de la puissance spirituelle, bien que soutenues par le bras séculier, ne purent réduire au silence les clameurs de la raison s'insurgeant contre le principe même de l'autorité, et les exécutions sanglantes par lesquelles les princes appuyés sur le clergé prétendaient étouffer les mouvements populaires, ne réussirent pas mieux à rendre leur joug moins odieux et l'insurrection moins générale. Le clergé, cependant, surtout en France et en Italie, semblait le mieux comprendre les besoins de cette époque et il cherchait à aider l'enfantement laborieux de la liberté politique. On vit plusieurs princes ecclésiastiques aller au-devant des vœux du peuple, présider eux-mêmes à l'organisation des communes et leur octroyer des chartes et des franchises. D'autres résistèrent courageusement aux exigences intempestives et comprimèrent une liberté qui dégénérait en désordre et en violence. Mais par une étrange contradiction, une assez grande partie du clergé qui d'un côté combattait les excès de la liberté, de l'autre s'abandonnait avec engouement aux prétentions les plus téméraires du rationalisme, introduisait la licence dans les écoles de théologie. La vigilance des souverains pontifes ne put empêcher l'esprit de critique d'envahir les faits et les enseignements. La grande lutte entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel se répétait en petit dans chaque État, dans chaque province, dans chaque commune, et cette lutte, transportée du champ de bataille dans le monde intellectuel, amena une autre guerre non moins violente, non moins périlleuse, celle de la raison et de la foi. Le mal était général et son remède humain. Il n'y avait plus rien qui pût arrêter la tendance désordonnée de la raison pratique et spéculative, et si cet esprit d'insubordination avait prévalu, c'en était fait du catholicisme en Europe et de la civilisation du monde. Il fallait le prodige d'une influence surhumaine pour amener dans les voies de l'unité les esprits divisés, pour enchaîner subitement la tendance excentrique du rationalisme, pour captiver comme par enchantement peuple, prince, roi, clergés et pontifes. Une idée nouvelle, semblable à un astre inconnu qui brille d'un éclat extraordinaire au milieu de la nuit, plane sur l'Église et attire tous les regards. Sa lumière se projette en un moment sur l'Europe entière et allume partout un enthousiasme sacré. Les discussions cessent, les combats s'arrêtent, les ressentiments s'évanouissent, toutes les classes de la société chrétienne se rassemblent, s'entremêlent, fraternisent. Les peuples qui tout à l'heure se démembraient et se fractionnaient pour vivre isolés dans leurs étroites murailles se lèvent simultanément comme un seul homme. Ils ne forment plus qu'une seule nation, qu'une seule armée. Ils marchent sous une même bannière, obéissent à une même impulsion, se dévouent à une même cause. Qu'est-ce donc qui se passe dans l'univers? Quelle est la grande nouvelle qui se dit et se répète en Orient et en Occident? Quel est le but de cet ébranlement universel des nations chrétiennes? C'est la délivrance de Jérusalem.
Un humble ermite, un pèlerin que nul ne connaît, un pauvre moine descendu des montagnes de la Judée raconte au monde les malheurs de la ville sainte. À sa voix, la chrétienté s'émeut de compassion. Le pèlerin demande une croisade, le pape la proclame, les peuples répondent « Dieu le veut, Dieu le veut ». Ce cri magique opère des prodiges, tous les cœurs sont électrisés, les héros surgissent en foule. L'Europe se précipite sur l'Asie, Jérusalem est conquise et le Saint-Sépulcre arraché aux mains des infidèles. Que signifie cette expédition romanesque? À quoi donc se réduit le royaume de Godefroy? C'est le plus mince de tous les royaumes, à peine son territoire embrasse-t-il l'étendue de quelques villages. Et c'est là cependant le résultat positif d'une conquête si vantée par les poètes. Encore que de sang, que de bouleversement n'a-t-il pas fallu pour la conserver ou la répéter pendant 2 siècles. Ainsi parle le rationalisme. De nos jours, le point de vue des croisades s'est élargi, et les jugements d'une raison plus grave et plus éclairée déposent en faveur des raisons politiques de ce grand acte. Tous les esprits sérieux, en comparant l'état général de l'Europe à la fin des croisades avec ce qu'était la société avant cette époque, ont constaté les avantages immenses que la civilisation en a retirés. En effet, sans parler ici des progrès de la navigation, du commerce, de l'industrie, de la discipline militaire dont les ordres religieux ont fourni le modèle, outre les perfectionnements et les améliorations de tout genre qui ont été la conséquence du rapprochement des peuples occidentaux et de leur contact avec la civilisation orientale, il s'est accompli des faits plus généraux, des révolutions plus décisives que l'histoire ne peut attribuer qu'à l'influence des croisades. Car ainsi que nous l'avons remarqué, le mouvement de décomposition et de dissolution qui menaçait l'existence de la société européenne a été arrêté par un mouvement opposé. Les foyers individuels que la féodalité avait enracinés dans le sol s'absorbèrent les uns les autres dans une sphère plus vaste, et la liberté politique, dégagée de son esprit hostile, put s'étendre sans violence et se constituer, sans briser l'unité sociale. Ce sont là quelques-uns des grands et incontestables bienfaits dont le monde est redevable aux croisades, et la sagesse humaine, jugeant de la cause par les effets accomplis, est elle-même forcée de leur rendre justice, bien qu'elle fasse peu de cas de l'idée qui les domine. C'est cette idée, cependant, qu'il importe de saisir. Autrement, l'explication des réalités qui s'y rattachent ne sera jamais complète et satisfaisante. Quand nous contemplons les croisades, dans leur idée religieuse et dans leur rapport avec le développement spirituel de l'humanité, nous y voyons autre chose que des avantages politiques, qu'un remaniement social, qu'une voie de civilisation matérielle. Nous reconnaissons d'abord qu'une idée qui, durant plusieurs siècles, a mis en mouvement toutes les nations chrétiennes pour un but qui n'avait rien d'humain, n'a pu venir de l'homme, elle est venue d'en haut, et le cri de guerre, Dieu le veut, était le cri de la vérité. Cette idée, disons-nous, n'a point été comprise par la raison. Elle ne le pouvait, car elle était précisément dirigée contre la raison. Elle dut l'étonner, l'altérer, la paralyser par sa subite apparition et par l'action vive et profonde qu'elle exerça sur la foi. Or, c'était là, nous le croyons, le véritable objet des croisades, de leur but moral. Le réveil de la foi et son triomphe sur la raison égarée, dans le temps même où le rationalisme desséchait les cœurs et entravait les voies de l'esprit, telle a été la conséquence directe, immédiate et la plus frappante à nos yeux que les guerres saintes aient produites dans le monde chrétien. C'est ce qui explique les accents chaleureux des prédicateurs des croisades. Tous les apôtres de la foi et les hommes habituellement les plus pacifiques soutenaient cette cause avec une irrésistible énergie, tandis qu'Abélard et les hommes de son école ont signalé froidement les inconvénients et la combattaient par d'opiniâtres arguments. La sagesse du rationalisme chrétien, comme autrefois la sagesse de la raison païenne, dut être confondue par la folie de la croix. Rien n'était assurément plus capable de réveiller l'esprit religieux du Moyen-Âge que le spectacle de la désolation de Jérusalem et le souvenir des lieux où le divin Sauveur expia les péchés du monde par ses souffrances et par sa mort. La réminiscence de ces objets sacrés et les hautes vérités qui s'y rattachent provoquèrent partout la réaction de la foi, et la foi, à son tour, toujours active et féconde quand elle est vivante, se manifesta par une grande œuvre de dévouement et de charité. Elle éleva les chrétiens en dilatant leur cœur au-dessus des intérêts de ce monde et les poussa généreusement au secours de leurs frères opprimés. L'égoïsme rationnel fut brisé et un mouvement universel d'expansion succéda au mouvement de concentration qui comprimait l'Église et la société. Ainsi, la foi reprit son empire sur l'esprit du siècle. Qu'après cela, l'enthousiasme des croisades est dégénéré, en fureur et en passion désordonnée, que des armées chrétiennes aient péri dans les déserts, que des torrents de sang aient inondé la Terre Sainte, ce sont des faits que nous ne contestons pas, mais qui ne ressortent pas nécessairement de la chose. Il importait peu, sans doute, que Jérusalem fût conquise. Il importait moins encore que les croisés se chargeassent de gloire. Ces circonstances ont leur valeur dans l'amour propre national et dans des intérêts dont nous ne discutons pas ici l'importance. Nous voulons seulement établir que le succès des croisades dans le sens religieux ne dépendait pas du triomphe des armes et que le but providentiel fut atteint malgré les passions et les déviations des hommes. Disons plus, les armées chrétiennes ne valaient guère mieux dans maintes occasions que les armées des infidèles. C'était de l'un et de l'autre côté des peuples sensuels, des masses d'hommes corrompus qui envoyaient de nombreuses victimes sur la terre des expiations. Car, et c'est une remarque que l'histoire ancienne et moderne nous permet de faire, il n'y a peut-être pas une seule race d'hommes passant sur la route des siècles qui n'ait fait une oblation de son sang sur la terre même où le sang d'Abel grilla vengeance et où le sang de Jésus-Christ proclama la grâce, la miséricorde et la paix. Les guerres saintes, sous ce point de vue, se rattachent par un long enchaînement de massacres aux guerres des Romains dont les armées, comme celles des croisés, étaient composées de tous les peuples du monde. Et les expéditions romaines, par une autre trace de sang, se relient aux guerres des Grecs, des Perses, des Mèdes, des Assyriens, lesquels, remontant à leur tour l'échelle des anges, aboutissent à l'extermination des peuples de Canaan. Et c'est ainsi que la Terre Sainte, véritable autel des holocaustes de l'humanité, terre perpétuellement arrosée de sang, remplit sa mystérieuse destinée. Non, cette destinée n'est point encore accomplie. Jérusalem, la ville de la justice et de la paix, n'a point achevé sa mission sublime. On la reverra au dénouement de l'histoire humaine comme on l'a vu à son commencement, et c'est dans son enceinte, sur la montagne sacrée, que le genre humain fera retentir le grand consummatum est. La question des croisades est si pleine d'intérêt, se lie trop à l'histoire de Saint Bernard et de son siècle pour ne pas trouver une grande place dans cet ouvrage. Nous en avons posé ici les prémices. Les développements historiques n'en seront que les conséquences. Nous constaterons au milieu des désastres de la guerre la vérité de cette parole de saint Paul, que l'homme intérieur se renouvelle progressivement à mesure que l'homme extérieur se corrompt et se détruit. Cette vérité s'applique aussi à la civilisation. En effet, pendant que la société chrétienne s'épurait par une abondante effusion de sang, le principe religieux préparait dans le sein de l'Église un nouvel épanchement de vie chrétienne. La personnification de ce principe est toujours en France. La France, dès l'origine de sa monarchie, s'était distinguée par son attachement au Saint-Siège et par son inviolable fidélité à la vraie foi, et c'est à ce double avantage, plus qu'à ses qualités naturelles, qu'elle dut sa noble supériorité. C'est elle qui a le mieux compris et réalisé le principe d'unité proclamé par Jésus-Christ, et aussi, malgré le partage féodal des États de la Gaule, l'unité a constamment été le but politique des rois de la troisième race. En outre, il a toujours existé, entre ces divers états, une communauté de sentiments et d'intérêts qui les rendait en quelque sorte solidaires et homogènes. L'esprit français, le caractère français, l'honneur français et surtout sa foi et sa bonne foi étaient autant de mobiles communs qui poussaient à l'unité nationale. Cette unité a été le commencement de l'unité européenne. L'unité européenne qui se détermine de nos jours est le commencement de l'unité universelle et catholique. Déjà, la France avait signalé sa prépondérance d'une manière éclatante en donnant le branle aux croisades. Le nom de franc demeura commun à toutes les armées chrétiennes, c'est la France qui forme leur avant-garde. C'est elle qui commande, qui triomphe, qui règne à Jérusalem. Toutefois, ce n'est pas seulement par les progrès de sa civilisation et par les fruits de ses exploits que cette généreuse nation marche à la tête de la chrétienté. En même temps qu'elle étonne le monde par les héros qu'elle enfante, elle édifie l'Église par les milices sacrées qu'elle suscite. La source des eaux vives de la piété, longtemps obstruée, reprend son cours en France dès le XIIe siècle et de son sein jaillissent plusieurs fleuves qui arrosent le champ de l'Église. Saint Bruno pose sur la cime des rochers de Grenoble le berceau de l'ordre et des chartreux, dont la devise était « Stat crux, dum volvitur orbis ». Les esprits sérieux et tranquilles et les âmes appelées à la contemplation des choses célestes s'unissent dans cet asile. Saint Étienne d'Auvergne donne naissance presque à la même époque à l'ordre de Grandmont, qui du temps de Saint Bernard comptait déjà 60 maisons, dont plusieurs étaient des écoles de science et de sainteté. Saint Norbert offre à l'Église, dans la congrégation de Prémontré, de nouvelles compagnies d'ouvriers évangéliques, dignes modèles de la régularité sacerdotale. Enfin, Saint Robert et l'Anglais Saint-Étienne, après avoir visité le tombeau de Saint-Pierre et de Saint-Paul, défrichent les déserts de la Bourgogne et instituent le fameux ordre de Cîteaux, qui enfante Saint-Bernard et devient une immense pépinière d'hommes de Dieu et de Saint-Pasteur. Ces ordres, rappelant l'esprit primitif du christianisme, répondaient aux besoins fonciers de l'Église et s'opposaient par leur science et leur vertu au fléau que la guerre, l'hérésie et le schisme avaient déversé dans le monde. Cependant, il fallait en ces temps de crise et d'effervescence universelle une influence forte, centrale, complètement indépendante des intérêts qui divisaient les hommes pour maîtriser et diriger le torrent du siècle. Cette influence ne put être exercée ostensiblement ni par les rois dont l'autorité s'était émoussée, ni par les pontifes trop occupés à se défendre eux-mêmes. Elle échut à un saint moine, et il fallut un Bernard, nouveau Moïse, pour servir de guide au peuple de Dieu, pour reprocher aux Aaron leur coupable faiblesse et vaincre les criminelles résistances des pharaons. Le moment était venu où Jésus-Christ, indigné des scandales du sanctuaire, chassa du temple, une verge à la main, ceux qui trafiquaient dans la maison de Dieu. La mission de Saint Bernard va reproduire à la fois la justice et la miséricorde du Dieu dont il fut le serviteur fidèle. Ici finit notre tâche préliminaire qui avait un double but. D'abord de poser l'idée historique et de la saisir dans la multiplicité des faits qui se déroulent avec les siècles, puis de jeter un coup d'œil sur les temps qui ont précédé l'époque de Saint Bernard pour y rattacher les événements dont nous avons à parler. Cette rapide esquisse ne saurait être que fort incomplète et nous avons hâte d'aborder notre sujet spécial, de peur, comme dit l'auteur du livre des Maccabées, de nous trop étendre avant d'entrer en matière, tandis que nous voulons être courts dans la matière elle-même.
The